Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Disponible 26 janvier, dans quelques jours, sur Prime Vidéo, un documentaire sur Alexandre Daigle. Pour les plus jeunes à l'écoute, Alexandre Daigle, c'était le nouveau Guy Lafleur, le nouveau Jean Béliveau, celui qui devait sauver les sénateurs d'Ottawa. Vous imaginez la pression. Premier choix au repêchage, et la carrière n'a pas été celle que peut-être lui-même avait anticipé, ou en tout cas les experts avaient prévu. Il est avec nous ce matin. Alexandre Daigle, bonjour.
Bonjour.
J'ai regardé le documentaire. C'est assez incroyable la pression que vous aviez là, après la carrière junior majeure,
oui,
et l'arrivée dans la Ligue nationale.
Oui.
Vous étiez le sauveur, là.
Oui, puis en faisant le docu, je l'ai comme revécu, tu sais, puis tout ça. Puis je l'ai fait, tu sais, pour une raison spécifique, c'était pour mes enfants, parce que mes enfants ne me connaissent pas, là. Comme joueur de hockey, je parle. Puis j'ai tout revécu le fait que j'avais 16 ans, je suis parti de chez moi. À 18 ans, je suis dans la Ligue nationale, je signe un gros contrat, puis là, j'arrive, puis je suis tout seul. Fait que ça a été vraiment OK. Là, je regarde mes enfants qui ont 16 ans aujourd'hui, je me dis, ouf!
Vous dites dans le documentaire, Crosby, quand il est arrivé à Pittsburgh, il y a Mario Lemieux.
Oui.
Il l'a accueilli chez lui. Oui. L'adaptation, puis d'arriver dans un autre univers. Vous étiez, là, c'était la une, mais oui, pas faire deux pas dans la ville, puis en même temps, vous étiez seul.
Ouais, ça a été la plus grosse affaire, être seul, parce que c'est bien beau un agent, là, tu sais, tout le monde, mais un agent travaille pour toi, là, à the end of the day, puis il a signé le contrat, c'était sa job. Puis te suivre après ça dans ton cheminement, c'est une chose, mais il te suit pas mal plus ta dernière année de contrat qu'avant. Puis aussi, il m'est arrivé une chose, c'est que Pierre Lacroix, à ce moment-là, il a pris la job avec les Nordiques. Donc, je me suis retrouvé avec une jeune équipe d'agents. Donc, à ce niveau-là, non. Puis l'autre niveau, c'est que l'équipe, c'était une jeune équipe, là. C'était Rick Bowness, c'était sa première job comme entraîneur. Ensuite, t'avais Randy Sexton, directeur gérant, sa première job. C'était beaucoup de premières. Puis moi, je suis arrivé là-dedans. Donc, ça a été eye-opener. Puis, quand... aujourd'hui, c'est correct, mais quand j'avais 18, 19, 20, 21, c'était très, très difficile.
Ça se traduisait comment, ces moments difficiles-là? Étiez-vous déprimé? Étiez-vous triste? Comment ça se passait?
Un petit peu déprimé, mais je vous dirais plus d'essayer d'avoir un échappatoire, puis essayer. Tu sais, parce que le monde réalise pas. T'as 18 ans, tu vas dans la Ligue nationale. Il n'y a pas ben joueur de ton âge. Donc, tu arrives avec des gens qui ont 26, 27, 28, 30 ans. Eux, ils ont des familles. Tu sais, ils sont pas là pour faire du babysitting non plus. Donc, tu es vraiment à toi-même dans une ville que tu connais pas. Moi, au moins, j'étais à Ottawa, donc c'était une ville que tu peux aller au restaurant, tu peux aller dans un bar, tu peux faire ça. Tu arrives aux États-Unis à 18. 21 ans, là, t'es vraiment chez vous, là, c'est comme une mini-prison, fait que c'est pas évident si t'as pas le support, puis je l'avais pas. Fait que ça a été ça.
Je me souviens qu'à l'époque, quand ça s'est mis à moins bien aller, là, puis ouais, la production était pas au rendez-vous, en tout cas dans les objectifs fixés, puis ça a pris un peu de temps, les gens disent, ouais, aimes-tu vraiment ça, jouer au hockey? Est-ce que vous êtes un passionné de hockey? L'étiez-vous à l'époque? Êtes-vous encore?
Ah, je le suis encore. Je joue encore au moins une ou deux fois par semaine. Je coach mon gars. Puis tu sais, il y a une autre affaire qui était triste. Il disait que mes parents m'avaient poussé. C'était tout le contraire. Mon père avait jamais joué au hockey. Il a jamais coaché. Il était là. C'est la personne la plus positive. Puis ça, c'est une raison pourquoi je l'ai fait, parce qu'il était en fin de vie. Il a eu le cancer l'an passé. Puis il est mort avant de l'avoir vu. Mais on a passé beaucoup de temps, puis on a discuté. Puis je trouvais ça triste. Il y a beaucoup de raisons pourquoi que ça marche pas. Mais tu sais, moi, la première raison, c'est que je suis arrivé à 15 ou 16 ans, puis il m'est arrivé un burn-out. Puis j'ai jamais reconquis. Tu sais, pour être un Guy Lafleur, un Lemieux, tout le monde pense que ces gars-là, ils ont beaucoup de talent, puis ça va être facile. Non, non. C'est parce qu'ils ont une petite flamèche en dedans d'eux, qu'à tous les jours, là, ben, la pratique, c'est comme le match. Puis quand tu perds ça, tu peux jamais être à ce niveau-là. Est-ce que j'ai eu une belle carrière? Oui. Tu sais, j'ai fait 20 buts ma première saison à 18 ans. Je suis sûr que j'aurais joué pour le Canadien, j'aurais eu une tonne à mon nom à votre émission.
Probablement.
mais les perspectives puis les attentes étaient tellement élevées que ça n'a pas été ça. Mais...
Et ce burn-out, c'est arrivé comment?
C'était midget 3. J'ai marqué mon 50e but quand j'avais 15 ans. J'avais fini le premier scoreur. Puis c'était ça mon but dans ma petite tête de joueur de hockey de faire. Puis quand je l'ai fait, tout a changé pour moi. Ça a été vraiment un déclic. Puis là, j'ai eu de la misère. J'ai toujours eu de misère après à appeler ça reset goals, là, tu sais, me faire d'autres. Parce que moi, jouer dans la Ligue nationale, ça n'existait pas parce que tu sais, je viens de Laval. Puis là, moi, là, j'allais jamais au Canadien. On n'avait pas d'argent pour aller au Canadien. J'étais voir une game junior, puis c'était Mario Lemieux. Deux games. J'en ai vu une au centre, au Colisée de Laval, puis j'en ai vu une au Forum dans le temps parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Il y avait trop de monde pour les playoffs. Puis après ça, c'était le Ninja 3 qu'on allait voir. Puis moi, ça, c'était mon but. Puis je l'ai atteint. Puis ensuite, à ce moment-là, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis à ma première année junior, à ma fête, j'avais... Là, je voulais vraiment arrêter. J'étais vraiment pas bien. Puis j'avais été chez Pierre Lacroix 2 jours. Puis il m'avait dit, Alex, il dit, Gann, il te reste 18 mois de hockey. Puis après ça... Tu vas être drafté, tu vas passer au cash, puis ta vie va être différente, puis tu vas pouvoir la vivre comme tu veux. Donc, ça a été un petit peu ça, mon
c'est un sujet de tabou, les enjeux de santé mentale. Ouais. À votre époque, on parlait à micro fermé de Stéphane Richer, qui a ouais. eu des moments difficiles. Il me raconte à la télé qu'il revenait du New Jersey, il était en voiture, il avait gagné la Coupe Stanley, puis il pleurait tout le long, parce que c'est pas ça, là, il était pas bien. Mais... c'était tabou. Tu ne pouvais pas en parler.
Non, tu ne peux pas en parler. Ça s'est beaucoup amélioré. Oui. Je pense que les époques aussi, l'argent qu'ils donnent aux joueurs, ils veulent protéger leur investissement. Puis la santé mentale est devenue aussi dans le...
Non, on l'a vu avec Jonathan Drouin.
Oui, le public est prêt aussi à ça. Donc, il y a moins de stigma. Il y a même des joueurs, là, cette année, je ne sais pas, il y a combien de joueurs qui ont tombé dans le programme, que ce soit un programme alcool, whatever it is, mais il y a de la santé mentale là-dedans aussi. Donc, c'est exceptionnel. C'est très, très bon. Mais dans le temps, c'était pas comme ça. Puis dans le temps aussi, free agency, c'était 32 ans. Tu sais, tu vois toute ta carrière, puis t'arrivais, t'étais fini, puis là, tu pouvais signer ailleurs. Tu sais c'était une autre époque. Puis je suis arrivé dans cette époque-là. Mais tu sais, dans tout ça, puis dans le documentaire, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent aussi? J'ai une super belle vie, là. Puis j'en ai encore une belle, puis j'ai des beaux enfants, je suis marié. It's great. C'est juste que la Ligue nationale m'a appelé puis il voulait faire un documentaire sur moi puis j'ai dit...
Mais veux pas, vous avez changé des choses, c'est-à-dire...
Ben oui.
Le premier choix de repêchage, maintenant, c'est une loterie.
Ouais.
Les conditions de contrat pour un joueur recru, ça a été encadré aussi.
Oui, absolument. Ça, c'est une autre chose que tout le monde pense. C'est moi qui ai fait changer ça. Oui, parce que j'étais le deuxième, parce que Lindros est arrivé 2 ans avant, puis ouais. Il faisait le double, même quasiment le triple de moi, parce que j'étais payé en Canadien, j'étais payé en US, puis c'était... Mais moi, j'étais le symbole, puis aussi, c'était le temps que c'était la convention collective finissait. Donc là, tout a été... c'était de ma faute.
Il y a tout le côté médiatique qui ressort dans le documentaire. La fameuse photo où vous êtes en infirmière.
Ouais.
Ça, l'avez-vous regretté? C'est arrivé comment?
J'ai regretté pendant 30 ans. Là, je le regrette moins.
30 ans?
Non, c'est parce que tout le monde me parle de ça. Puis tu sais, j'essaie...
C'était une pub, là.
C'était une pub. J'étais pas encore dans la Ligue nationale. C'était pour savoir où est-ce que j'allais jouer. Là, il y avait comme 6-7 photos de... J'étais habillé en toutes sortes de business, whatever. Puis le gars... Puis là, je suis tout seul. Là. J'ai 17 ans. Puis là, Score, la compagnie, ils viennent me donner 100 000 US. Pour faire une photo, une session de photo, puis il s'en va avec ça. Fait que, tu sais, je suis pas une scène, je m'en vais là, puis j'ai pas d'agent, j'ai personne alentour de moi, il m'envoie là, puis il n'y a pas de proof de la photo, rien. Je fais cette photo-là, puis tout le monde m'en parle encore. Là, tu sais, je trouve ça drôle, là.
Mais genre, à ce moment-là, non.
Mais c'est pas drôle parce que là, tu set up un kid qui a 18 ans, qui a le truc de contrat, que là, il arrête, il y a un lockout, il est blâmé pour ça. Là, il est habillé en nurse. Puis, je me rappelle aussi, j'avais signé un autre contrat avec une compagnie qui s'appelait Jofa dans le temps. C'est les casques les plus laids au monde. Il y avait juste Mario qui jouait avec ça. Puis, je pense Vincent Danfousse. Tout le monde jouait avec du CCM. Mais là, j'arrive avec, tu sais, c'était beaucoup de choses. Tu sais, tu peux pas se taper un kit de main. Il faut que tu essayes, dans le temps, il faut que tu essayes qu'il blende le plus possible. Mais cette photo-là, c'était, ouais, c'est ça.
Ouais. Notre invité, Alexandre Daigle, il y a votre vie personnelle aussi qui a fait jaser.
Oui.
La fameuse liaison avec Pamela Anderson. D'abord, c'est-tu vrai?
Moi, j'ai jamais parlé de ça, parce que je trouve que...
C'est une belle
que...
occasion de commencer.
Non, ça arrivera pas aujourd'hui non plus. Je trouve ça dommage, parce que si ça aurait été une fille, ou tu sais, moi, je suis toujours... Moi, j'ai des filles aussi, je trouve ça poche que tu vas parler d'une relation avec quiconque. L'autre, quoi, elle a rien à dire, ou lui a rien à dire. Moi, je vais juste te dire, j'ai vécu longtemps à Los Angeles, j'ai beaucoup de plaisir. Ça, je peux te dire ça.
OK. Un peu de jet set, un peu glamour, un peu la vie Hollywood,
ouais.
Là.
Ouais. Mais il y a une chose que j'étais vraiment chanceux, c'est que dans le temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Donc, c'est les années 90, c'était une autre époque, puis ça, ça a été magique.
Parce que?
Ben, parce que...
On a réglé des affaires.
Non, mais écoute-moi, j'étais un gars vraiment de bonne humeur, puis j'ai toujours été de bonne humeur, fait que, tu sais, c'était un petit peu... C'était vraiment le fun d'aller là-bas. Moi, j'étais là-bas pour une raison évidente, c'est que tu revenais à Montréal. Premièrement, il faisait pas beau au mois d'avril, parce que quand j'étais à Ottawa, on gagnait pas souvent. Puis, on finissait, je pense que c'était le 10 avril, donc pas beau à Montréal. Là, tu t'en vas soit à Miami, tu t'en vas à LA. Puis, rester à Montréal, ben, tu sais, les joueurs, là, il n'y en a pas beaucoup qui restent à Montréal. Pourquoi? Quand tu es jeune, tu peux pas aller dans un bar, tu peux pas aller dans un restaurant, tu sais, c'est pas... Tu sais, être une célébrité, il y en a qui pensent que c'est le fun. C'est pas si le fun que ça, là. Mais tu le sais pas tant que tu le vis pas.
Montréal, là, on dit souvent que les joueurs francophones veulent pas venir à Montréal parce que c'est trop de pression, parce que c'est... on ne parle que de ça 12 mois par année. Est-ce que c'est vrai? Vous avez joué dans d'autres villes avec d'autres joueurs, là?
Ben moi, je... Gagne. Oui, c'est peut-être, là. Mais moi, je pense que la chose que le monde parle pas beaucoup, les médias en parlent pas, puis je trouve ça ridicule, c'est que... En Floride, tu payes 27 % de taxes, tu en payes 53 % au Québec. Le joueur est payé directement, c'est pas mieux comme une compagnie. Donc, tu as un gap de 25 % ou 26 % Là, quand il va signer un 5, 6, 7 ans, puis c'est pour 7, 8 millions par année, ben son comptable, là, McSween, là, il pourrait te le dire, là, combien à the end of the day qui va te rester dans tes poches si tu fais juste choisir cette ville-là. Puis ça, pour moi...
Ça joue.
Gagne, ils ont changé les règlements là, sur le free agency, puis après ça, le salary cap. Il n'y a pas une équipe du Canada qui a gagné en 30 ans. Écoute, c'est peut-être pas pour ça, mais avoir des joueurs autonomes de grand calibre à 27 ans, c'est une décision difficile.
Je regardais le documentaire.
Oui.
Vous pouviez être baveux quand même un peu.
Oui.
Un peu cocky, comme on dit, là.
Oui.
Il y a une scène avec John Mockler. Qui est... Ça s'appelle « Courir après le trouble ».
Ouais, mais ça, c'est juste la... premièrement, c'est mon dernier match avec les Rangers.
Ouais, on a compris, c'était le dernier.
Ça, c'était une chose, puis je le savais qu'après la saison, mon contrat était fini, puis j'arrêtais. J'ai arrêté pendant 2 ans au milieu de ma carrière. Puis, voulez-vous que je compte la scène?
Oui. Il rentre dans le vestiaire.
Il rentre dans le vestiaire, mais faut se rendre compte, toutes les vestiaires de la Ligue nationale sont tous différents pour les équipes adverses. Puis, à Anaheim, ils n'ont pas compris... qu'il y a 20 joueurs sur la glace, mais il y en a 23 dans l'équipe. Donc, il y a juste 20 stalls. Moi, je ne joue pas cette soirée-là. Fait que j'ai une chaise pliante à côté de tout le monde, dans le bac, proche du gars de l'équipement. Là, je suis assis là, puis John Mockler, il arrive, puis il est très gentil, John Mockler, mais tu sais, c'est un vieux de la vieille, là. Il voulait revoir ses réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il avait l'air, là. Ses lunettes fumées, c'est ça. C'est
old style.
Beau. Mais il a toujours été très, très gentil avec moi, je dois admettre, là. Puis là, il rentre, il commence à parler, puis là, il essaie de motiver. Puis il va de un joueur après l'autre. Là, t'as Adam Graves, t'as Brian Leach, t'as Kaminsky. Il leur demande tout. Il dit « Hey, les boys, c'est quoi gagner à New York? » Là, les gars, ils s'en vont avec la cassette. Puis là, c'est « Hey, c'est le fun. On va avoir plein de plaisir. » Puis les fans, ils le méritent. Puis là, Hollow de Blue, après 7-8 joueurs, il dit « Dago! » Là, je suis comme « Hey, c'est pas vrai. Il me demande pas ça à moi.
«
What does it mean? » Là, il me dit, j'ai dit, it means, probably means a new contract. Là, il dit, wrong answer! Ben, j'ai dit, John, j'ai dit, with all the respect, j'ai dit, if we don't make the playoffs, on va voir combien de personnes qui vont être encore dans la chambre l'année prochaine. C'est la vérité,
t'as pas de bonne idée de le dire.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que au début de ma carrière, beaucoup d'immaturité, puis beaucoup sur l'émotion, puis beaucoup, j'aime ça faire rire les gens. Fait que, tu sais, si tu mets ça tout ensemble, c'était pas un bon mix.
Là, on a compris votre parcours. Ligue nationale, vous êtes rendu en Suisse pour jouer au hockey.
Ouais.
Puis là, après ça, vous dites, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je coach mes gars, mon gars au hockey. Tout ça. OK, qu'est-ce que tu fais? T'as pas ça dans la vie?
Je travaille à une compagnie qui s'appelle Attraction à Montréal. Puis on fait des shows télé. Justement, on a vendu un à Weather Channel qui va sortir au mois d'avril ou mai sur les homards. L'histoire des homards du Nova Scotia puis du Maine, puis la rivalité entre les deux, puis les fishermen. Fait que ça, c'est un show qu'on fait, puis on travaille sur plein d'autres shows.
Souhaitez-vous votre fils jouer au hockey professionnel?
Ah, j'y souhaite. Ben oui, c'est la meilleure chose. Moi, le sport, je trouve que, regarde, premièrement, t'amènes beaucoup de qualité dans le business ou dans ta vie que le hockey te donne, la discipline, travailler avec les autres. Puis, tu sais, le jeu de gang, tu sais, j'ai encore beaucoup d'amis aujourd'hui, des gens que j'avais dans ma vie à 17, 18, 19, 20 ans, parce que tu te formes des liens incroyables. Et vas-tu le faire? Tu sais, les odds sont vraiment minimes, là. Faut être réaliste.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Alexandre Daigle, c'est disponible ce documentaire, donc le 26 janvier sur Prime Video.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Nous allons parler de vin ce matin, plusieurs angles à regarder. Il y a évidemment tous les changements climatiques. On le voit, là, pour les gens qui en doutaient, les derniers mois ont été assez convaincants, qui ont un effet sur la production de vin à travers le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et on reçoit pour en parler Michel Bouffard, qui est sommelière de renommée internationale, qui participe à l'émission Curieux Bégin et qui a donné il y a quelques jours à peine justement une conférence sur le sujet. Madame Bouffard, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que les températures extrêmes, par exemple, qu'on voit en Europe, on va prendre cet exemple, ça vient affecter la façon de produire le vin tant au niveau de la qualité que de la quantité de produits disponibles.
Oui, absolument. Je pense que les agriculteurs en général ont été les premiers à constater les changements. Quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2005, donc bien avant que ça devienne le sujet de l'heure, j'ai appelé les viticulteurs et parce qu'il y avait pas vraiment d'écrit là-dessus sur l'impact des changements climatiques dans le monde viticole. Il y avait peu de recherches à cette époque-là et les gens me disaient. On le voit, 2003 avait été une année, un point tournant en Europe. On se rappelle, en France, les gens mouraient, on n'avait pas d'air climatisé. Et ça a été la première année où on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, malheureusement, on l'a vu dernièrement, 2023 a été, on a dit, c'est la plus...
L'année la plus chaude
de toute l'histoire.
Ouais.
Donc, il y a une répercussion énorme. Et ce qui est très difficile, c'est le chaos climatique. On ne sait pas à quoi s'attendre d'une année à l'autre. Donc, c'est très difficile de dire, voici la nouvelle réalité, on va s'y adapter, parce que cette réalité change tout le temps.
Donc, donnez-nous des exemples de comment les viticulteurs ont dû s'adapter.
Oui. En fait, dans la conférence, on avait 30 conférenciers. Vraiment, on avait des gens de partout à travers le monde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Espagne, l'Italie, donc la France, les Québécois. On était 400 personnes à se réunir pour discuter des enjeux et comment s'y adapter. Et vraiment, tu sais, je dis toujours de la vigne au verre, on peut faire plusieurs choses. Du point de vue d'un vigneron, un exemple à quel point ça peut être catastrophique. Il y avait un producteur, Sumaroca, qui fait du cava qu'on voit dans le marché ici. En 2020, il a perdu 80% de sa récolte aux maladies fongiques. En 2023, il a perdu 80% de sa récolte à la sécheresse. On l'a vu, il y avait des bateaux à Barcelone qui arrivaient avec de l'eau. Les gens n'ont plus d'eau, donc les vignes ils ont souffert. Alors là, on explorait plusieurs solutions. Par exemple, on a parlé de type de cépage. Est-ce que dans certaines régions, on devrait considérer différents types de cépages? Comment on peut préserver l'identité d'une région, d'un terroir. On a exploré aussi la santé des sols. On avait Marc-André Solos. Pour ceux qui s'y intéressent, il a écrit une dizaine de livres. C'est une sommité mondiale. Alors lui, il parlait justement que la désertification, on a peu de matière organique dans les sols. Et donc, comment on peut réintégrer, comment on peut avoir plus de matière organique? Alors lorsqu'il pleut, ben les sols vont retenir l'eau et les mycorhizes qui se trouvent à être des champignons dans les sols, hein, je vulgarise parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais qui ont un rôle très, très important à créer un réseau dans les sous-sols et d'aider justement le transport de l'eau à la vigne. On a parlé aussi du consommateur et de la perception parce que lorsqu'on regarde l'empreinte carbone d'une bouteille de vin, on dit que jusqu'à 40% de l'empreinte carbone est issue du conditionnement. Le conditionnement, bon québécois, c'est l'emballage. Hein? Donc, je dis toujours aux gens, si vous allez à la SAQ et que vous prenez une bouteille, puis vous pouvez vous entraîner, faire des poids, faut la laisser derrière, on veut pas la boire. En 2024, c'est inacceptable et irresponsable parce qu'on sait que c'est de là que provient la plus grande majorité des GES. Et donc, on a parlé, c'est quoi les conditionnements alternatifs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on a parlé, il y avait la première mondiale. C'était vraiment, la personne est venue de la Californie, une bouteille en aluminium de 80 grammes.
Les puristes vont avoir des doutes, non? C'est une bouteille en aluminium?
En fait, je pense que les professionnels du vin ont beaucoup à faire pour démocratiser. Et je pense que les consommateurs vont suivre, mais il faut l'expliquer.
On sait. Je me souviens quand les premiers bouchons autres qu'en liège sont apparus. Ouais. Il y a des gens qui ont mis les freins. Là.
Exactement. Aujourd'hui, on y pense plus.
C'est même pas un enjeu.
Exactement. Et en fait, plus de 90% des vins qui sont achetés sont consommés dans la première semaine d'achat. C'est énorme. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de mettre tous les vins dans une bouteille de verre? Donc, on a exploré d'autres contenants comme le vignier, comme on appelle ça le pouch, là, c'est un anglicisme, mais donc la poche de vin. On a exploré les canettes d'aluminium, la bouteille d'aluminium qui est la première au monde, qui était là, les gens étaient là sur place pour en parler. On a parlé aussi du transport en vrac. Parce que c'est sûr que le transport est responsable jusqu'à 13% de l'empreinte carbone. Donc, l'envoi par bateau en vrac, c'est l'idéal. Alors là, ben il faut travailler avec des embouteilleurs sur place. La SAQ, c'était mon partenaire majeur cette année. Ils ont participé beaucoup aux conversations. Et on a parlé justement de leur engagement à l'envoi en vrac et comment changer aussi cette perception. On a une mauvaise perception. On se dit, si envoyé en vrac et embouteillé dans le marché, c'est du vin de volume qui sera pas bon. Alors que on est en arrière au Canada, parce que ça se fait dans beaucoup, beaucoup de marchés du monde, dont l'Angleterre, dont l'Allemagne. Il y a beaucoup de producteurs très reconnus qui vont envoyer leur vin d'entrée de gamme, donc le plus gros volume, en vrac. Donc, on a vraiment exploré, d'une part, comment un vigneron peut s'adapter, quels sont les moyens dont on dispose, connaissant le chaos et les difficultés, et d'une autre part, comment on peut s'engager pour réduire les gaz à effet de serre. Et c'est un projet que je porte à bout de bras depuis, c'était la 4e édition. Et c'était 3 jours cette année, on a terminé hier. Et c'était beau parce qu'il y avait des gens de partout à travers le monde qui vivent des choses différentes, mais qui se réunissaient parce qu'on était très optimistes, malgré ce qui est un peu noir. Et l'INRA, qui est un centre de recherche dans le sud de la France, a publié une recherche dernièrement et disait l'agriculture régénératrice, ce qui est une forme d'agriculture qui favorise la santé des sols et donc une meilleure captation carbone dans les sols. Si tous les producteurs s'y mettent, on pourrait capter jusqu'à 41% des gaz à effet de serre dans les sols en adoptant l'agriculture régénératrice. Alors, on a un pouvoir énorme.
On sait quoi faire.
On sait quoi faire et le consommateur est dépassé. Et si on pouvait utiliser un message dans chaque bouteille pour lui dire, voici, on partage un verre de vin, puis par où on commence?
Une des préoccupations du consommateur, ça va être de se dire, avec des pertes de récolte, comme vous avez décrit il y a quelques instants, avec ces changements qui affectent, bon, est-ce que ça peut vouloir dire une rareté des produits moins disponibles, puis en même temps, donc, un effet sur les prix?
Absolument. Je suis vraiment contente que vous le mentionniez. Je pense que c'est une réalité. C'est certain, il y avait un producteur de la Colombie-Britannique qui était là, David Patterson de Tantalus, un exemple. Généralement, il arrive à produire 12 000 caisses de vin par année. Cette année, ils en ont produit 4 000 parce qu'il y a eu les feux. Donc, ils ont perdu du vin à la teinte de la fumée parce que c'est le goût de la fumée et on peut pas vendre le vin. Et en plus, il y avait eu un hiver très rigoureux en 2022. Donc, il y a des vignes qui ont été tuées par le froid. Donc, une petite production, tu peux faire ça une fois. Mais si ça fait 10 années que c'est comme ça, 10 ans, à un moment donné, tu vas fermer la porte ou tu vas monter tes prix. Et donc, c'est sûr que le chaos climatique affecte énormément la récolte et dont les prix. Il y a des régions comme la Bourgogne qui sont très prisées. Par exemple, le millésime 2021, qui a eu beaucoup de gel, on va avoir très peu de quantité. Donc, si vous aimez la Bourgogne, bonne chance. Les prix vont monter, c'est certain. Après, je donne la Bourgogne comme exemple, mais c'est quand même une destination pour les vins de luxe. Mais ça touche tous les vins. Et je pense qu'en tant que consommateur, on a aussi une responsabilité. On a commencé avec une conférence qui était animée par Yves-Marie Abraham, qui est professeur au HEC, donc qui est pas du tout dans le vin. Et on a commencé à discuter de la décroissance, et qui est un peu l'éléphant dans la pièce. Alors, on peut parler de solutions toute la journée, mais au final, il faut tous consommer moins, mais mieux. Et je pense que les conditions climatiques vont nous forcer un peu à faire ça. On a tous des moyens différents. Mais je dis toujours, si vos moyens, c'est 10 $ pour une bouteille de vin, peut-être n'en acheter une à 20 $ au lieu de deux à 10 $, parce que il faut soutenir ces viticulteurs qui vivent des choses extrêmement difficiles.
Il y a eu beaucoup de spéculation dans les dernières années, puis je dirais décennies, l'arrivée de nouveaux riches qui achetaient des quantités impressionnantes, des prix délirants. Les vins de Bourgogne dont vous parlez, c'est devenu pratiquement inaccessible. Est-ce que ce phénomène-là est en perte de vitesse? Est-ce que le vin comme, je dirais, investissement puis de revente, c'est moins vrai qu'avant, ou c'est encore un phénomène réel avec des oligarques, avec des Chinois?
Oui, c'est encore vrai. Ça a énormément augmenté pendant la pandémie.
Oui.
Et même des régions qui avaient peut-être... la Bourgogne était devenue très alléchante. C'était la nouvelle région parce que, justement, dans le marché chinois, ils ont fait monter le prix des vins parce qu'il y avait beaucoup de spéculation. On s'est rendu compte que pendant la pandémie, il y a eu un renouveau vers le Bordeaux. Le Bordeaux qui avait un petit peu perdu de popularité, qui est redevenu très populaire, qui avait vraiment augmenté dans ce désir d'acheter et de spéculer. Pour la première fois depuis longtemps, on voit une tendance qui se stabilise, mais ça n'a pas vraiment descendu. Mais je crois que c'est sûr que des régions comme la Bourgogne, dont on fait déjà des petites quantités, et là on vient mettre l'enjeu des conditions climatiques, c'est la tempête parfaite.
Quel conseil pratique vous pouvez donner aux auditeurs ce matin qui veulent, des amateurs, qui veulent faire des achats responsables de vin?
Première chose, vous êtes à la SAQ toute seule, il n'y a personne qui peut vous aider. Regardez le contenant. Vous allez le savoir si la bouteille est lourde. Laissez-la derrière. Heureusement, la SAQ s'engage. Tous les bouteilles moins de 20 $ en produits continus sont en verre allégé. Mais au-delà de ça, il y a plein de verres encore, de bouteilles à poids lourd. Il faut la laisser derrière. Ensuite, les certifications. Il n'y a rien de parfait. Je sais qu'il y a des enjeux aussi avec les certifications, mais les certifications, c'est quand même une garantie que le producteur prend des moyens pour respecter l'environnement. Donc, tous les certifications, on en a carboneutre, lutte raisonnée, je vais vous en mentionner, tu sais, California Sustainable Wine Growing. Je le dis en anglais parce que quand ils mettent le logo, c'est ce qu'on va voir sur l'étiquette, parce que c'est des vins qui arrivent de la Californie. Donc, chaque pays va avoir souvent une certification qui dit que ce vin-là a été produit avec des méthodes durables. Donc, vous allez voir un petit logo de certification. Ça, c'est quand même déjà un bon guide. Ensuite, je sais qu'on produit pas assez de vin au Québec pour satisfaire la soif de tout le monde, mais je pense que encourager les produits locaux, hein, c'est sûr que les produits qui sont à proximité ont moins d'une empreinte carbone que les vins qui viennent de la Nouvelle-Zélande, par exemple.
Pensez-vous que les changements climatiques au Québec vont avoir un effet sur la production? On a dit longtemps, mais c'est une courte période. Mais là, on s'aperçoit, par exemple, qu'en septembre, l'été se prolonge un peu plus.
On avait beaucoup de vignerons qui étaient présents à la conférence, qui ont participé aux discussions aussi. La réponse courte à ça, 2021. Grande année au Québec, on n'avait jamais vu ça. On récoltait du pinot noir à 13 % d'alcool, à 12,5 %, c'était mûr, c'était magnifique. Je dis toujours aux gens, si vous trouvez du 2021, achetez la bouteille, c'est magnifique. On a récolté tard dans la saison, on avait les conditions parfaites. 2023, c'était excessivement difficile. On a connu des gels, les gens étaient dans les vignes pour combattre les feux. Ensuite, on a eu énormément de pluie. Les vignerons ont fini l'année épuisés. Et je pense que ça nous donne vraiment le ton de ce qui va continuer d'arriver.
C'est en dents de scie, là.
C'est en dents de scie. Et c'est ça qui est difficile.
Vous êtes aussi de l'émission Curieux Bégin.
Oui.
Là, vous savez que quand vous présentez un vin, là, vous avez un pouvoir d'influence assez extraordinaire, non?
Mais j'aime bien. Merci. J'adore partager.
Vous créez la rareté rapidement.
Oui. J'essaie toujours d'aller en ligne. Après, on enregistre les émissions souvent à l'avance. Donc, c'est sûr que des fois, les gens m'écrivent, c'est plus disponible parce que les gens, ils vont rapidement y aller. Et quand je fais des choix Curieux Bégin, j'essaie justement de soutenir des producteurs qui ont une démarche éco-responsable et qui respectent l'environnement.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci pour l'invitation.
Michel Bouffard, qui est sommelière de renommée internationale, co-auteur de l'ouvrage « Quel vin pour demain » et « Le vin face aux défis climatiques ». Il y avait une conférence à Montréal.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Ça passe vite quand même, la cage qui célèbre ses 40 ans. Et un des premiers joueurs de la cage est avec nous ce matin, puis en est devenu le président, chef de la direction au fil des ans. Jean Bédard est avec nous. Bonjour Jean.
Bonjour.
La première cage que tu as achetée, c'est arrivé quand? Puis c'était à Saint-Hyacinthe, si on le sait.
Effectivement, en 88, il y a un groupe d'amis de Saint-Hyacinthe qui avait décidé d'investir dans la franchise. Moi, à cette époque-là, j'étais pas encore retourné à Saint-Hyacinthe. J'étudiais encore à Montréal. Puis, on était, je pense, 15 ou 18 qui avaient décidé d'embarquer dans l'aventure. Puis, moi, c'était un concept quand j'avais vu ça en 86, dans le temps que j'étais à l'université, qui m'emballait parce que j'étais un sportif qui aimait avoir du plaisir. Donc, j'ai décidé de trouver une place, me souquitter une place avec ce groupe-là. Puis, évidemment, je suis tombé franchisé.
Comment on gère ça à 18?
Ben, c'est là qu'on a appris beaucoup. La première chose, c'est que notre gérant de l'époque, qu'on avait choisi, qui était un serveur populaire d'une brasserie à Saint-Hyacinthe, et pas rentré la journée de l'ouverture parce qu'il a trouvé que c'était trop de pression. Ils sont ramassés 18 gars qui connaissaient pas la restauration. Pas de gérant. Donc, la première leçon que j'ai eue, j'ai dit, quand tu veux ouvrir un restaurant, surtout d'avoir quelqu'un, parce qu'on a été, ça a été difficile, honnêtement, puis je sais que tu connais d'autres de mes actionnaires du début qui ont, on a eu peur, là, de vraiment fermer ça, perdre ça. Heureusement, on a mis la main, on a trouvé quelqu'un pour vraiment s'en occuper, puis finalement, ça a été redressé. Mais on s'était lancé dans l'aventure, comme plusieurs font souvent dans la restauration. Ils regardent le bon côté, je vais aller au bar, on va se faire du fun avec les clients, tout ça, mais il y a un côté très difficile, ça prend quelqu'un pour s'en occuper. C'est ça qu'on a appris.
La croissance a quand même été importante au fil des ans, c'est-à-dire des franchisés qui se sont ajoutés, donc des ouvertures de succursales, puis le marché s'est étendu. Puis, je me souviens, on a eu quelques entrevues ensemble, Puis il y a des gens qui disaient, ouais, il me semble que ça vieillit mal un peu, il faut donner un coup de barre. À quel moment a fallu comme redresser l'affaire un peu?
Je dirais qu'il y a deux moments importants, là, parce que j'ai eu mon speech du 40e, où j'essayais de voir les gros moments qu'on a vécu au cours des 40 ans de la cage. Évidemment, moi, quand je suis arrivé comme président en 95, j'avais 30 ans, c'est l'année où les Nordiques sont partis, où les Canadiens ont été 5 ans sans faire les séries. Puis si on se rappelle, la cage est née en 84 à cause de la série canadien-nordique. M. Durs avait vu ça, il dit, le monde, les Québécois sont fous de ça. On perdait un peu notre raison d'être parce que la raison pour laquelle cette chaîne-là avait été bâtie, c'était vraiment le hockey canadien-nordique. Et là, ben, on a eu une période pendant ces 5 années-là, la première fois, où on a dû remodeler, réinventer un petit peu, je dirais en 98-99. Puis là, on s'est associé aux Canadiens. Il y a eu un changement au niveau du Canadien, Pierre Boivin est arrivé, le marketing et tout ça. Et là, on a fait un bon bout. Il y a eu une autre période plus sombre où là, l'économie avait baissé en 2008. On s'est investi dans la boxe, qui est vraiment une business bien différente de la restauration, peut-être une perte de focus aussi. Et là, en 93-94, ben là, la nourriture, les gens, avec l'Internet, bon, sont beaucoup plus informés, étaient beaucoup plus, voulaient vraiment mieux manger. Il a fallu vraiment donner un coup de barre. Qu'est-ce qu'on a fait en 2014? Ouais. Fait qu'on s'est réinventé.
Est-ce que le succès de la cage était lié aux performances du Canadien?
À l'époque, oui. Et la dernière fois, quand on a vraiment refait le rebranding, on s'est dit, on peut pas
dépendre de ça.
T'sais, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on était allé dans la boxe. En fait, un heureux hasard. En 2004, si je me rappelle bien, il y a eu la grève au hockey. Puis là, on était comme, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas dépendre du hockey. C'est là qu'on avait décidé, on va faire des événements de boxe. On a commencé de façon très... très modeste, si on veut, au début. Mais là, finalement, avec Lucian, ça a été quand même une belle époque pour la boxe. Et évidemment, en 2013-2014, on dit, oui, le sport est important. Et c'est devenu pas la raison d'être de la cage. Ça reste toujours le sport. Mais bien manger, prendre une bonne bière, ça devenait aussi important. Fait qu'on a vraiment augmenté la qualité. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a reparti une nouvelle phase de croissance, si on veut.
Est-ce que la pandémie vous a menacé?
Ben la pandémie,
affecté, mais oui. Au point de menacer l'existence de la compagnie?
J'ai eu peur. Honnêtement, au début, écoute, je veux dire, la dernière chose que t'es pas formé, c'est d'arrêter complètement tes restaurants du jour au lendemain, pratiquement, où t'as beaucoup d'employés. Je dirais que, puis tu sais, tu sais pas quand est-ce que ça va se régler, combien de temps que ça va durer. Moi, je me rappelle mes vieux réflexes. J'avais fait un calcul, on était correct pour 18 mois. Parce que là, nous autres, on pensait pas qu'on aurait des subventions, que le gouvernement, on s'est jamais fié là-dessus. Évidemment, là, il y a des programmes qui sont arrivés, une chance, qui ont sauvé la suite. Mais il y a eu des moments, effectivement, où je me disais, ben, si ça continue comme ça, à un moment donné, c'est une question de cash flow. Tu as des frais fixes, puis les bailleurs aussi, on avait beaucoup d'engagement avec des locataires, si on veut, des grands locataires, qu'eux autres aussi ont été, évidemment, ils voulaient pas perdre des bons locataires. Fait que oui, j'ai eu peur de ça. Par contre, je dirais que c'est probablement une des bonnes choses qui nous est arrivée parce qu'on a quand même, après ça, quand on a senti qu'il y avait du support, ben on a continué de travailler pour se préparer pour la relance. Puis on a mis en place des choses pendant la pandémie qui nous servent beaucoup en ce moment.
Je vois beaucoup de restaurateurs qui en arrachent depuis le retour. Il y a eu comme, après la pandémie, une folie. Là, tu ne peux pas réserver nulle part, c'était impossible, c'était compliqué. Arrive la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et tout ça, puis les gens là, lèvent le pied. Ça, vous le sentez?
Oui, ben absolument. En fait, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les restaurateurs parce que, premièrement, ceux qui ont passé à travers la pandémie, c'est les bons. Tu sais, je veux dire, ceux qui étaient pas bons, là, ils ont pas passé la pandémie. Puis là, ben évidemment, c'est de plus en plus complexe, là, tu sais, parce que là, t'as tes employés, faut que tu t'occupes. Tu sais, avant, les matières premières augmentaient une fois par année, à peu près. Là, ce qui est arrivé, c'est que les clients étaient là, il y avait beaucoup de monde. Si t'as pas de système pour te rendre compte qu'à toutes les semaines, ils te font des augmentations pour ci, pour ça, tu vas te ramasser à la fin de la période. T'as vendu beaucoup, t'as eu beaucoup de clients, mais t'as pas fait d'argent, puis t'as pas été capable de mettre de l'argent de côté pour les mois les plus difficiles. Fait que là, c'est là qu'en ce moment, là, les gens arrivent et ça prend des systèmes complexes. C'est beaucoup plus compliqué que, là, 10 ans faire ça. Parce qu'avant, on avait une hausse ou deux hausses de prix. Là, à cette heure, on a des hausses de prix qui arrivent à gauche et à droite. Faut que tu sois capable de suivre ça. Sinon, tu vends. Oui, les clients sont là. Puis évidemment, oui, le trafic est plus, tu sais, je veux dire, les gens, ça dépend des créneaux. Je dirais, c'est pas tous les créneaux, là. Je dirais que, mettons, les high-end, on a des steakhouse maintenant, ça, les gens y vont encore. Par contre, les restaurants plus, je dirais, familiaux, tout ça, là, je pense que les gens vont consommer moins, vont venir un peu moins, vont peut-être faire des take-out ou des livraisons. Mais c'est une année qui va être quand même assez challengeant pour la restauration.
Mais est-ce que ça implique, là, je sais, on va parler de l'Europe là, tantôt, là, mais ça veut dire, faut se diverser. Bon, il y a Moïcheuse, qu'on a réinstallé ici, pas très loin, là, au centre-ville. Ça veut dire qu'il faut aller quoi? Changer, en fait, augmenter l'offre par d'autres bannières?
Pas nécessairement. Moi, je pense qu'il faut que tu aies des bons systèmes en place pour réagir rapidement. C'est parce que tout change un petit peu plus vite. En ce moment, faut pas que tu t'excites. Faut que tu réinventes ton menu. C'est-à-dire que faut que tu es capable de voir que, mettons, ton plat qui était très populaire, à un moment donné, tu as eu une hausse de prix dans telle matière première, puis même si c'est encore populaire, tu le vends pour rien parce que tu n'es pas capable d'augmenter les prix plus que ça, puis tu fais plus d'argent. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de réingénierie de menus qui sont importantes en ce moment, complexes.
Réduisez-vous les quantités.
Nous, on joue pas avec ça. C'est que si c'est un plat à ce grosseur-là qui marche plus, ben on va le remplacer. On va chercher à le remplacer. Une des choses qu'on a fait, nous, pendant la pandémie, moi, ça faisait 25 ans que je voulais une bonne pizza à cage, puis on n'était pas capable, on n'était pas équipé, on n'avait pas les fourneaux, et les gens me disaient toujours ça. Fait qu'on a vraiment travaillé là-dessus pendant la pandémie. Puis là, on l'a implanté, puis elle va bien. Puis ça, c'est un produit qui te permet d'aller en promotion un petit peu plus facilement. Les marges sont plus intéressantes. Tu peux jouer sur les toppings, tout ça, mais on ne joue pas sur les portions. Ça, on fait pas ça.
Quand on arrive avec Moïcheuse, là, c'est une institution montréalaise qui a opéré pendant des décennies. Le personnel est âgé. D'abord, de changer d'endroit, on vient de briser une tradition, puis il y a eu la pause, évidemment. Puis d'ouvrir après ça là, au centre-ville. Comment ça a été reçu? Moi, je suivais la Gazette. Je me suis dit, on va voir quelle sera la réaction dans De Gazette. Ça n'a pas été si mal, finalement.
Oui. En fait, ça, c'était un gros défi, honnêtement, parce que, tu sais, quand tu es une marque iconique comme ça, évidemment, tout est surveillé. Quand on a acheté Moïcheuse, nous autres, là, un mois plus tard, le monde, il commençait à dire que ça avait changé, puis on n'était même pas encore allé au restaurant. Puis juste dans la tête des gens, juste qu'il y a un changement de propriétaire, souvent, ça déclenche des réflexes de dire « Ah, c'est pas pareil comme avant ». Fait que c'est sûr que c'était dangereux. Je pense que nous, on voulait changer puis amener Moïcheuse, un peu comme on a fait avec la cage. Tu sais, c'est une marque qui avait besoin de tu sais, les gens, les habitudes de consommation ont changé. Donc, en le déménageant, si on l'avait déménagé pendant la pandémie, un mois, on est là, on n'aurait pas été capable de faire les grandes transformations qu'on a faites. Le 3 ans nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on a pu faire pour s'assurer que la marque va être là encore pour les 80 prochaines années, parce que c'est une marque qui a 80 ans. Mais c'était délicat. Honnêtement, il y a eu des périodes où je me disais, on le réouvre-tu vraiment, tu sais, investir 5 millions de dollars après la pandémie à Montréal, alors que, évidemment, on sait au niveau des bureaux, c'est moins occupé, tout ça. C'était une grosse opération. Heureusement, ça a bien tourné. Vraiment, j'ai des gens dans mon équipe qui se sont surpassés, je dirais. Puis aujourd'hui, ben évidemment, on est bien fiers de ça parce qu'on pense que, tu sais, on veut pas que ces marques-là partent de Montréal. C'est important. C'est les gens viennent à Montréal pour des restaurants comme ça.
Puis est-ce qu'on pense à ajouter d'autres Moïcheuses ou on se dit c'est un puis c'est à Montréal puis si tu veux l'avoir, tu viens en ville?
Ouais. Ben en fait, pour le Québec, c'est clair que c'est. Mais si c'est peut-être une marque internationale avec l'identité montréalaise. Parce que vous avez vu, on a changé le logo, c'est Moïcheuse Montréal. Là, donc, cette identité-là, Montréal, est super importante. Mais pour l'instant, il y en a juste un à Montréal, puis il n'y a pas question pour l'instant qu'on aille à l'extérieur.
Les produits vendus en épicerie, c'est ça qui est le plus payant en bout de ligne?
Ça nous a sauvés. Nous, heureusement, on avait déjà des produits depuis longtemps, mais on avait décidé d'être plus présents. Puis juste un petit peu avant la pandémie, on avait fait un exercice stratégique. Puis heureusement, pendant la pandémie, on était prêts à aller plus loin, puis tout le monde nous appelait parce que là, il y a eu une mode produit Québec. On encourage nos chaînes qui sont fermées, tout ça. Fait que là, c'est rendu Costco nous appelait, Walmart nous appelait pour avoir nos produits. Ça nous a aidé beaucoup. C'est très compétitif, par exemple. Tu sais, ces gens-là...
Quand
t'arrives
des ailes de poulet, là.
Ouais, tu sais, puis Costco, ils décident là, que ton augmentation, là, même si tu as eu une augmentation de ton fournisseur, il apprend pas. Il y a des parties de bras de fer. Mais je pense que quand tu as une marque forte, puis je pense que la cage, c'est quand même une marque forte. Ça te permet de dire, ben garde nous autres à ce prix-là, on les vend pas. Mais c'est pas rien d'acquis. Il y a beaucoup de travail. La beauté, par contre, c'est qu'un coup, c'est du gros volume. Fait que tu sais, à ce moment-là, ça assure des revenus fixes. Puis ça nous a permis, nous autres, de garder notre monde pendant la pandémie un petit peu plus que la moyenne. Mais c'est pas si facile que ça. Faut vraiment être un brand puis des produits qui font l'attrait. Parce qu'une pizza, il y a trop de compétition dans la pizza. Quand même, t'as la meilleure pizza au monde, tu te dis, je veux mettre ça en épicerie, ben, délicieux, tout ça. Eux autres, ils payent des tablettes puis tu seras jamais capable de rentrer, là. Mais nous autres, ça a été une belle chose, évidemment.
L'Europe.
Oui.
Pourquoi?
Ben, en fait, un concours de circonstances. Ça fait 25 ans. Là, 25 ans, on avait passé proche de vendre une master franchise à un propriétaire de McDo de Nantes. Puis, ça n'avait pas été plus loin, finalement. Puis, c'était une bonne chose, parce qu'on n'était pas prêt du tout, du tout. Là, cette fois-ci, ben, là, 5 ans, il y a un boulanger de France, Boulangerie Ange. Ils ont 250 boulangeries. Ils ont commencé à ouvrir au Québec. Mm-hmm. Puis le propriétaire est rentré dans une cage. Puis quand il a vu ça, il a dit, moi, il faut que je voie le propriétaire de ça. On n'a pas ça en France. C'est un gars qui aime le sport, un peu comme nous. Il nous ressemble beaucoup. Et eux nous ont approchés pour essentiellement acheter les droits pour la France. On devait ouvrir la première en 2020. Évidemment, encore une fois, avec ce qui s'est passé, ça a été reporté. On a ouvert une première. Puis la façon qu'on l'avait fait, c'est qu'on se dit, on va ouvrir une ou deux, puis on verra, puis après ça, on développe. Mais là, à la lumière, justement, j'arrive de là hier. On a eu des bonnes rencontres en fin de semaine. Il y a vraiment une traction pour ce concept-là. Les gens n'ont pas ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça marche pas, c'est qu'eux autres, ils ont des petits pop. Quand ils rentrent là-dedans, c'est comme... Mais, tu sais, il appelle ça un truc de ouf, là, un truc de fou à l'envers. Et là, ben, on va accélérer ça. Donc, pour nous, ben, on a un partenaire qui est prêt à investir dans la marque. Nous, on est prêt à le supporter. Puis, ce que ça a comme effet, c'est qu'au-delà de la finance, là, c'est, ça engage beaucoup notre personnel à nous. Nous, là, comme on est en train de, on va en ouvrir une deuxième. Cette année en France. Là, on est en train de faire un concours auprès de nos employés pour savoir que c'est du Québec qui va aller diriger ça. Fait que, tu sais, ça fait comme, ouais. Tu travailles dans l'organisation, t'as l'opportunité de déménager. Il y a une vibe en France sur le Québec qui est vraiment, vraiment, tout ce qui vient du Québec, on dirait qu'on a inventé je sais pas quoi, là, mais il y a vraiment une vibe très positive sur le Québec en ce moment. Eux autres, ils jouent à fond dans le... Ça vient du Québec, c'est des produits du Québec, puis évidemment, là, ça fait que là, on a des demandes pour d'autres pays.
Puis le club de hockey, quels autres pays?
L'Angleterre.
L'Angleterre?
Oh, ouais.
Et le club de hockey, c'est quoi? C'est un naturel?
Ben, en fait, oui. En fait, moi, j'aime toujours le hockey. J'ai toujours été impliqué. J'ai fini cette année mon mandat avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. On a organisé le championnat canadien. Puis j'avais dit, je termine cette année. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis j'étais allé voir un match l'année passée.
On comprend la proximité des vignobles là, de Bordeaux.
Oui, oui,
là.
Ben, c'est ça.
C'est une bonne source de motivation.
C'est ça. Mais quand c'est arrivé, puis moi, je savais que de toute façon, je viendrais. Ça a cliqué, cette organisation-là. Puis moi, mon bon ami Jacques Tanguay, depuis toujours, ben, oh, tu sais, Jacques aime bien le vin, Patrick aussi. On se voit quand même, on se voyait. Ça fait deux, trois fois qu'on parlait de s'impliquer. Fait que quand j'ai eu cette opportunité-là, eux autres, ils ont dit, ben oui, on embarque là-dedans, on ira faire un tour, puis on n'est pas nécessairement impliqué à 100%. Mais je pense que ça va donner de la visibilité au hockey français, mais aussi
à des Québécois.
Ben oui, ouais. On a déjà des Québécois. Et moi, je trouve que c'est une belle... Tu sais, souvent, un petit gars qui veut continuer de jouer au hockey, au lieu d'aller dans East Coast League, en Caroline du Nord, d'aller à Bordeaux, ben pour un francophone, en plus, c'est une belle place. Donc, on commence cette aventure-là également.
Est-ce que tu étais dans le secret des dieux pour Patrick et les Islanders?
Oui, en fait, j'étais bien nerveux parce qu'il devait annoncer ça peut-être jeudi en même temps qu'on annonçait notre affaire. Fait qu'évidemment, notre affaire de Bordeaux aurait passé deuxième s'il avait fallu que Patrick... Et là, d'ailleurs, en fin de semaine, je ramassais les billets pour jeudi. Alors, avant que ça soit annoncé, je disais, je reprendrai mes billets de jeudi, je vais les changer contre ceux de Boston. Le monde comprenait pas trop un samedi soir, puis là... Parce que moi, je savais qu'il s'en venait jeudi à Montréal. Donc, bien content pour lui parce que Patrick, il a ça dans le sang. Il attendait ça depuis longtemps.
Mais est-ce qu'il avait parlé à d'autres équipes ou c'était vraiment...
Pas trop. Ça, ce bout-là, je pense qu'il commençait à avoir de l'intérêt pour lui. Je pense qu'il a fait les bonnes choses. Il est retourné, il a gagné, il est allé se reposer. Puis tu sais, c'est toujours la ligue, c'est toujours il y a toujours des périodes où là après les fêtes, là, le monde dit on va pas nulle part, on est en train de repenser à nos entraîneurs. Je serais pas surpris qu'il y ait eu d'autres équipes qui l'aient approché.
Jean Bédard, merci beaucoup d'être venu.
Merci.
On se souvient des 40 ans de la cage.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.